Je reprends Mathias.
Alors, Mathias n'est pas là, mais il y a deux questions qui sont arrivées pendant la pause. Alors, d'abord, une question dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang. Est-ce que c'est l'humanité ou la nature pécheresse? 1 Corinthiens 15, verset 50.
La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. La corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Je pense que la chair et le sang, c'est les vivants, donc c'est vraiment l'humanité, et la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité, la corruption sont les morts. Oui, c'est ça. Donc je pense que la chair et le sang de 1 Corinthiens 15, 50, c'est bien l'humanité, oui, les
L'humanité,
vivants.
oui, d'accord. Et puis une autre question, est-ce que tu pourrais donner des exemples pratiques sur le concept de prendre ou de ne pas prendre soin de la chair? Par exemple, si on fait du sport, on prend un peu soin de la
Ah
chair
non, pas du tout.
corporelle.
Oui. Alors, pas du tout. Faire du sport, c'est pas du tout prendre soin de la chair, c'est prendre soin du corps.
D'accord.
Par contre, effectivement, prenons, puisque c'est un peu notre passage avec l'ivrognerie. Si je me mets à boire finalement un peu de vin, ok, mais éventuellement un peu beaucoup. En fait, il y a un moment où je risque de perdre le contrôle de moi-même parce que ben, j'aurais un peu dépassé la limite de ce qui est. Hein, je sais pas que éventuellement le vin en question très bien, mais un peu beaucoup. Il y a un moment où je bascule dans ce moment où je vais perdre contrôle de moi-même et je vais peut-être être amené à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et donc, j'ai pris soin de la chair au sens que je me suis préparé un terrain qui va risquer de me faire tomber. Un deuxième exemple pourrait être, qu'est-ce qu'on, oui, quelque chose où je sais que je suis très, très facilement dans la colère, dans l'énervement par rapport à des circonstances. Si je me remets toujours dans les mêmes circonstances où ça risque de m'arriver, en fait, j'entretiens le mécanisme pour redévelopper une réaction totalement mauvaise. Donc, c'est le fait de se mettre dans les dispositions où on fait tout pour que ça arrive finalement. On s'y prépare presque mentalement. Alors après, on est étonné de tomber, mais on n'a pas du tout, on n'a pas du tout évité la chute. On n'a pris aucune précaution finalement. Prendre soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises, je pense, c'est prendre des précautions, se connaître un peu soi-même, se connaître un peu ses faiblesses et prendre des précautions pour ne pas tomber. Une autre précaution, c'est dans la fidélité du couple. Si je fais pas attention, hein, si je suis attiré par une autre personne que mon conjoint et que je fais pas attention et que je le cultive et que ben, je prends la personne en voiture, je la raccompagne chez elle, etc., en tête à tête, je prends soin de la chair et un jour je risque de tomber.
Et puis, il y a une dernière question qui résume un peu tout ce que tu as dit. Comment faire, à quelqu'un qui pose la question, comment faire la différence entre le corps et la chair? Si tu peux redonner peut-être une petite définition des deux
Oui.
concepts.
Alors, donc le corps, ben, tout le monde sait ce que c'est que le corps, hein, donc effectivement, c'est notre corps humain et il n'a absolument pas de choses mauvaises dans le corps humain. Le corps n'est pas mauvais en soi. C'était l'erreur des gnostiques qui croyaient que le mal était dans le corps. Donc pas du tout. Le mal n'est pas du tout dans le corps. La chair, c'est la façon que l'apôtre et que le Seigneur, on l'a vu hein, dans les deux exemples du Seigneur, mais l'apôtre reprend cet enseignement, c'est la façon dont il manifeste le péché qui est dans l'homme et qui va se faire voir par des actions visibles. Et alors, c'est comme c'est notre corps qui parle, c'est notre corps qui s'énerve, c'est notre corps qui fait des mauvaises choses, forcément que, pour simplifier peut-être, ou je ne sais pas si c'est pour simplifier, il utilise ce vocabulaire, la chair, pour nous faire comprendre que c'est de la nature humaine mauvaise. Donc c'est la partie mauvaise de la nature humaine, ce que j'ai appelé là dans la présentation de la nature humaine pécheresse, c'est la chair, et elle se manifeste par des actes, elle prend sa source dans nos pensées, on y reviendra je crois tout à l'heure, et ensuite elle se manifeste par des actes. Et c'est pour ça que ça se voit manifesté par le corps humain, mais ça n'a rien à voir avec le corps. Le corps, lui, il est bon. Il n'est pas mauvais.
Merci beaucoup. Alors, on te laisse continuer la deuxième partie. Tu peux partager
Merci.
ton écran.
La liberté, on commence par la conviction. Donc, Romains 14, c'est le chapitre, on va dire, le grand chapitre de la liberté chrétienne. Et on va le couper en trois parties. C'est de nouveau Monsieur Magui qui aime bien ça, parce qu'il aime bien les trois C. Donc, on aura nos trois parties avec la conviction, la conscience et la considération de l'autre. Donc, on commence avec la partie être convaincu. Et nous commençons par la lecture avec déjà le titre, ni mépriser, ni juger. Romains 14. Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le. Non pas pour décider sur des points sujets à discussion. L'un croit pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible, mange des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? C'est pour son propre maître qu'il se tient debout ou qu'il tombe. Et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Alors, de qui parle-t-on? Eh bien, on parle d'abord d'un faible. Donc, dans nos trois versets, mais je vous ai rajouté aussi le verset 21, puisque on l'a une troisième fois, ce faible. Faible dans la foi, l'autre qui est faible, celui qui est faible. Alors c'est quoi faible? Asthénéo, être faible, être sans force, impuissant, faible en moyens, nécessiteux, pauvre, un malade, être malade. Voilà, donc c'est vraiment un mot ici qui décrit bien l'état de faiblesse. Alors, c'est qui finalement? On pourrait dire ce faible, il entretient des scrupules, injustifiés peut-être, sur des questions secondaires. Si on voulait décrire le faible, peut-être sous les yeux du fort, puisque le faible, lui, il trouve que ses scrupules ne sont pas injustifiés, et il trouve que ses questions ne sont pas secondaires. Mais l'apôtre, ici, il a l'air de s'adresser à des gens qui doivent faire face au faible. Donc, le lecteur est un petit peu vu comme un fort. Et la notion de fort intervient aussi dans ce paragraphe un peu plus loin, et aussi au chapitre 15. Donc c'est pour ça que peut-être une bonne définition de ce faible, c'est qu'il entretient des scrupules injustifiés sur des questions secondaires. Et quel est le contexte? Justement, c'est qu'il y avait des chrétiens juifs qui avaient des scrupules de ne pas manger cachère, ou de manger des viandes sacrifiées aux idoles, ou de travailler le samedi. Et on sait que l'Église de Rome était constituée de chrétiens juifs et des nations, donc on a un problème ici de cohabitation de chrétiens entre eux qui sont dans la foi. C'est pas du tout que c'est des. Quand on dit il est faible dans la foi, c'est pas que sa foi est faible, c'est pas quelqu'un qui manque de foi, mais il est dans la foi chrétienne et en fait il a une faiblesse par rapport à ces sujets, qui vont être des sujets justement de la liberté chrétienne, ces sujets pour lesquels la parole ne tranche pas de façon précises et qui ne sont pas des fautes, des péchés caractérisés. Alors, le paragraphe est tout à fait frappant parce qu'il est encadré par la notion que Dieu reçoit. Nous devrions recevoir, parce que Dieu l'a reçu, recevez-vous les uns les autres à la fin du paragraphe, donc au chapitre 15, verset 7, car aussi Christ vous a reçu. Donc tout notre chapitre sur la liberté chrétienne est encadré par cette notion de réception, que on doit se recevoir les uns les autres, s'accueillir l'un l'autre. Et quel est notre modèle pour cela? Eh bien, Dieu l'a reçu, Christ vous a reçu. Donc ça donne déjà un peu la scène, hein? Ça donne le tableau général de notre passage, c'est qu'on va se recevoir, s'accueillir les uns les autres. Et c'est quoi cette réception? C'est proslambano. Proslambano, prendre comme un compagnon, prendre par la main pour amener ailleurs, prendre ou recevoir dans sa maison avec l'idée de bonté, recevoir, c'est-à-dire permettre à quelqu'un l'accès à son cœur. C'est ça, cette réception dont il est parlé ici. Alors, recevons le faible, sans pour autant, non pas pour décider sur des points sujets à discussion, donc sans pour autant exiger que les points de discussion soient clarifiés. Le fait d'accueillir quelqu'un ne suppose pas qu'on va être d'accord sur tout, ne suppose pas non plus qu'on a passé au crible tous les sujets possibles de discussion, ne suppose pas qu'on a un credo, un code de bonne conduite chrétienne, un code d'église, et on va faire signer au bas de la page, ça y est, tu peux être membre si on est bien d'accord sur tous ces points-là. Pas du tout. Donc, on reçoit. On reçoit, mais on n'est pas du tout obligé de tout clarifier. Justement parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas si faciles à clarifier, et pour lesquels on ne peut pas être dogmatique, on ne peut pas avoir une opinion carrée et fracassante. Le faible est donc reçu dans l'assemblée avec ses questions douteuses, avec ses questions difficiles, et sa réception n'est pas conditionnée à la réponse à ces questions. Et d'ailleurs, c'est dans l'Église que l'on apprend. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui est accueilli dans une église, qu'il soit jeune converti ou qu'il soit de passage ou qu'il s'installe dans un lieu, eh bien, on va le recevoir et on va pas lui demander de remplir une liste, de cocher un checklist. Mais il va apprendre et il va progresser et de faible, il va devenir plus fort et va grandir aussi dans la liberté chrétienne. Alors le parallèle est parfait. Donc, celui qui est faible dans la foi, recevez-le. Celui-là, il mange des légumes, mais il ne devrait pas juger l'autre. Recevez-le. Il mange des légumes, mais il ne doit pas juger l'autre. Et ça, c'est complètement parallèle avec l'autre. Le fort, on va dire, même si le mot fort n'est pas mentionné ici, le fort, il mange de tout, lui. Mais il ne doit pas mépriser l'autre. Et Dieu l'a reçu. Ah, le premier, je dois le recevoir, le faible, même s'il mange des légumes, mais lui ne doit pas juger. Quant au fort, Dieu l'a reçu. Il mange de tout, mais il ne doit pas mépriser. Donc on est complètement parallèle là. Et c'est là le secret de ce passage, hein. C'est de voir le parallélisme complet, qu'il y a un danger dans les deux directions. Qu'il y a le danger du faible de juger, de porter un jugement contre son frère, parce qu'il se permet telle et telle chose. Et il y a le danger de celui qui vit la liberté de trouver que le faible a vraiment des scrupules non justifiés et de le mépriser. Et l'égalité parfaite des deux risques est vraiment visible dans le texte Et c'est la grande leçon du passage, et c'est en ayant bien compris ça qu'on va réussir à vivre l'équilibre et aussi à vivre ensemble. À vivre ensemble. Les deux sont reçus. Donc, celui qui risque de juger, celui qui risque de mépriser, l'un mange, l'autre ne mange pas, les deux sont reçus. Et chacun est responsable devant Dieu. Toi qui juges le serviteur d'autrui, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Comme il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église, personne n'a le droit d'être mon directeur de conscience. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. Personne n'a le droit de me juger. Je suis serviteur du Seigneur. Et ce que l'on constate, c'est que parfois, la notion de tomber, parfois celui qui juge ou celui qui fait des remarques croit bien faire, car il se fait du souci pour l'autre. Il se fait du souci pour l'autre. Il risque de tomber, il faut bien que je lui fasse une remarque. Il risque de tomber, il faut bien que je lui fasse comprendre que ce qu'il fait est mauvais, voire le lui interdire. Voire faire pression pour qu'il arrête. Et cette inquiétude de la chute de mon frère n'est pas du tout justifiable, ne peut justifier en rien le fait que je vais juger mon frère. Et d'ailleurs, le texte et l'apôtre prend le contre-pied de cette pensée, puisqu'il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant. Donc, arrête de juger le serviteur de quelqu'un d'autre. Il est le serviteur du maître, du Seigneur. Ce ne sont pas tes affaires. Tu n'as pas à intervenir. Et n'aie pas peur pour lui, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a d'ailleurs une deuxième pensée autour du Seigneur puissant pour le tenir debout, une pensée qui va maintenant toucher le fort. Parce que celui qui vit la liberté chrétienne n'est pas fort en lui-même. C'est le Seigneur qui est puissant pour le tenir debout. Donc nous faisons confiance, mais sans présomption. Qui rejoint d'ailleurs le texte précédent. On ne cultive pas les choses qui risquent de nous faire tomber, parce que nous sommes faibles. Mais le Seigneur est puissant pour nous tenir debout. Et donc si l'on vit la liberté chrétienne, c'est pas pour se mettre en danger, pas du tout. C'est pas je me mets à la limite de ce qui est interdit. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est je sens que je suis libre devant Dieu, mais ce n'est pas par arrogance, ce n'est pas par une confiance justement en moi-même ou une présomption. C'est le Seigneur qui est puissant pour me tenir debout. Et alors, je marche dans la liberté. Et je n'ai pas besoin d'avoir ceinture et bretelles pour me protéger et m'enfermer dans un légalisme ou dans des règles, dans des interdits, on sait très bien qu'il n'y a aucune force dans les interdits et que ce ne sont pas des interdits qui vont m'aider à avoir une vie plus sainte, plus pure, vivre la liberté chrétienne, revêtir le Christ, comme on l'a lu tout à l'heure, c'est bien sûr bien plus efficace, c'est ça qui nous rapproche de Dieu. Mais le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Une confiance sans présomption. Alors, un exemple de la parole où quelqu'un avait jugé le serviteur d'autrui, c'était Marie et Aaron en Nombre 12. Ils ont jugé leur frère Moïse au sujet d'une affaire personnelle, puisque Moïse avait épousé une femme magnanime, ça ne leur plaisait pas. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Dit l'Éternel. Donc voilà. Un cas où quelqu'un s'était permis de juger le serviteur d'autrui dans une affaire personnelle. Et puis une autre illustration, elle est dans Jean 21, c'est quand le Seigneur Jésus dit à Pierre, suis-moi, mais que Pierre se retourne et s'inquiète pour l'autre. Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Que t'importe? Toi, suis-moi. Donc cette inquiétude pour l'autre, le fait de se retourner, de regarder les hommes plutôt que de regarder le Seigneur, ici, une belle illustration Que t'importe? Toi, suis-moi. Alors, on continue la lecture, verset 5. L'un estime un jour plus qu'un autre jour, et l'autre estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Celui qui fait attention au jour le fait à cause du Seigneur, et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Celui qui s'abstient de manger s'abstient à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Donc, pleinement persuadé. On arrive à cette partie-là d'être convaincu, pleinement persuadé. Alors, on est passé de la nourriture à la question des jours. Un jour, un autre jour, tous les jours, attention au jour. Donc, on a changé de registre. Maintenant, nous sommes passés dans les questions de calendrier. Calendrier des fêtes religieuses juives, probablement, en particulier bien sûr le sabbat. Et pour nous, on peut en faire l'application au dimanche, par exemple, ou bien aux fêtes chrétiennes, hein, Pâques, Noël, Ascension, etc. Ils sont très importantes pour certaines personnes, qui le sont moins pour d'autres. Et on voit que manger de tout, manger des légumes, au verset 2, les jours, au verset 5, boire, au verset 14, boire du vin, au verset 21. On voit que tous ces exemples sont des questions de conscience, la marche chrétienne, notre vie privée, nos habitudes personnelles, et ne sont pas les péchés caractérisés dont on avait par exemple six exemples tout à l'heure dans le paragraphe précédent. Car bien sûr, nous ne devons jamais tolérer le mal. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a de la liberté chrétienne sur des sujets douteux ou sur des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse claire et nette qu'il faut s'engouffrer ici pour pratiquer des péchés qui sont caractérisés et qui sont décrits dans la parole, que ce soit dans le Décalogue, comme on l'a vu tout à l'heure, ou ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, notre chapitre est vraiment autour de ces questions de pratique. Et ça veut dire que dans notre chapitre, c'est la manière de juger les autres qui est finalement la chose la plus dangereuse du chapitre. Dans le chapitre, c'est pas dangereux la nourriture, les jours, mais ce qui est dangereux, c'est comment je vais juger les autres. Et l'essentiel n'est pas la manière dont on va s'occuper des repas ou des fêtes, mais la manière dont nous devons nous comporter les uns envers les autres. Et donc, c'est la clé du chapitre que finalement, l'important, c'est notre accueil l'un de l'autre et la façon dont on va vivre ensemble cette liberté sans jugement et sans mépris. Alors, un mot sur le dimanche, parce qu'évidemment, un jour plus qu'un autre jour, ça permet d'ouvrir une petite parenthèse qui est le dimanche. Parce que pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup ri, vraiment beaucoup ri, en lisant un de mes commentaires qui expliquait ce passage avec beaucoup de qualité extraordinaire. Et puis le frère explique que, voilà, l'un estime un jour plus qu'un autre et d'autres tous les jours égaux. Bon, évidemment, le dimanche, lui, alors, il est absolument, absolument à part, hein. Enfin, j'ai éclaté de rire parce que c'est le sujet. Donc, pour le juif de l'époque, le samedi était tellement important. Et puis peut-être pour son frère, plus d'origine des nations, c'était le dimanche qui était devenu sacré. Et on est au cœur de notre paragraphe. Alors, que dit la parole du dimanche? Donc, je ne vais pas vous répondre à toutes les questions, mais juste. D'abord, c'est effectivement le Seigneur Jésus est ressuscité un dimanche. La Pentecôte avait lieu 50 jours plus tard, ou plutôt 50 jours après le sabbat précédent, donc ça nous fait 49 plus 1, donc ça retombe sur un dimanche. Donc on a deux exemples ici, deux moments très importants du début de l'Église, la résurrection du Seigneur et la descente du Saint-Esprit un dimanche. Les deux rencontres avec les disciples dans la chambre haute, la première forcément, c'est le jour de la résurrection, mais la celle qui a lieu une semaine plus tard, c'est de nouveau un dimanche, si on appelle ça le deuxième dimanche de la résurrection, avec, vous vous souvenez, Thomas qui reconnaît le Seigneur. Quant à la fraction du pain, qui était probablement pratiquée de façon plus fréquente au début, pourrait sembler, en acte 20, se passer le dimanche. Pourquoi? Parce que l'apôtre, on le voit séjourner 7 jours en Troade et semble fixer son départ le lendemain du dimanche, juste après la fraction du pain et le sermon. Voilà, peut-être qu'il y a eu des fractions du pain et des sermons chacun des 7 jours, le texte ne le dit pas, mais on a un peu l'impression qu'il est resté jusque-là et puis il est parti le lundi matin. Et puis c'est aussi le dimanche que l'on mettait de côté de l'argent pour les collectes chaque semaine, pour éviter les grosses collectes lors du passage de l'apôtre, en 1 Corinthiens 7. Et enfin, l'expression journée dominicale est une expression biblique. On la lit dans Apocalypse 1, verset 10. Donc voilà, vous avez quelques éléments sur le dimanche, au cas où vous ayez envie qu'un jour soit vraiment plus qu'un autre jour. Alors, il faut être pleinement persuadé. Et le faire à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, à cause du Seigneur. Donc, le motif de notre conviction, c'est le Seigneur. Et c'est pas l'opinion générale. Ce n'est pas l'esprit du monde. Ce n'est pas la peur du regard des autres. Donc, ma motivation pour être pleinement persuadé, c'est le Seigneur. Et le fait de rendre grâce à Dieu, ici 2 fois, eh bien, c'est un assez bon thermomètre. Parce que si je rends grâce à Dieu, c'est que j'ai de l'assurance, j'ai de la paix, j'ai de la liberté devant Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que je me permets, mais pour lesquelles j'ai pas tout à fait la liberté de rendre grâce à Dieu. Alors, est-ce que ce sont des choses pour lesquelles je suis pleinement persuadé? Ou bien je pratique un peu la liberté, un peu élastique? Ou bah je pense que ça va, oui ça c'est correct, mais de là à dire merci au Seigneur, ouais, c'est peut-être moins net. Donc ça peut nous aider, soyons pleinement persuadés. Si on est pleinement persuadé, alors on dit merci Seigneur. Voilà, nous avons tous des comportements différents, avec des expressions honnêtes de la volonté d'honorer le Seigneur. Donc tous les gens de ces paragraphes ont envie d'honorer le Seigneur. Et il ne s'agit pas du tout ici de gens qui seraient des chrétiens refroidis ou qui ne veulent pas plaire au Seigneur. Non, non, les deux parties de ce paragraphe, si on en voit deux, mais il y en a une infinité, ont tous envie d'honorer le Seigneur. Simplement, il y a des comportements différents, alors que chacun a une volonté honnête d'honorer le Seigneur. Et c'est vraiment important puisque beaucoup de personnes sont parfois ennuyées en disant mais si j'ai la pensée du Seigneur alors ben ou si deux personnes ont la pensée du Seigneur ils vont forcément être d'accord. Eh ben non, justement pas. On ne met pas la vérité on la met pas dans sa poche. La vérité c'est une personne. La vérité c'est le Seigneur. On apprend à le connaître et donc on a compris des choses du Seigneur et on a décidé des comportements dans nos vies, on a fait des choix et on a l'humilité de penser qu'un autre croyant, tout aussi honnête, désireux d'honorer le Seigneur, va conclure autre chose. Et c'est cette humilité qui fait qu'on s'accueille l'un l'autre. Donc, plutôt que d'hésiter, c'est important d'être pleinement persuadé parce que justement, cette harmonie entre une opinion et une conduite, donc j'ai des opinions claires et ma conduite est en accord avec ces opinions, eh bien c'est ça qui me donne la fermeté et la liberté. Je suis pleinement persuadé. Le fait de rendre grâce à Dieu, comme on l'a dit, c'est un bon test. Parce que si je m'abstiens de quelque chose, est-ce que je rends grâce ou est-ce que je suis frustré? Pensez au fils aîné de la parabole du fils prodigue. Le fils aîné, il est frustré. parce qu'il pense à son, il pense à son frère en disant, il a brûlé ton bien avec les prostituées. Mais qui a parlé de prostituées? C'est lui qui s'est fait son film. Le frère, est, il a dépensé le bien en vivant dans la débauche. Peut-être qu'il y avait des prostituées. Mais l'autre, qui s'est bien gardé d'aller avec les prostituées, il a fait son film. Il est frustré, il est chez le papa, il se croit enfermé. Il se croit esclave. Et il est dans la frustration au point de ne pas accueillir son frère. Donc, si je m'abstiens de choses, est-ce que ça crée de la souffrance ou bien de l'action de grâce? Est-ce que je suis dans une démarche légaliste où je m'interdis quelque chose en croyant faire plaisir à Dieu? Ou bien je suis dans une démarche de liberté où mes décisions s'accompagnent de louanges. Voilà toute la dimension qui vient avec ces deux expressions. Il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Au passage, il y a quelqu'un ici qui mange et qui rend grâce à Dieu. Donc, c'est pratiqué par de nombreux chrétiens de rendre grâce avant de prendre un repas. Le Seigneur en a donné l'exemple. Il rendait grâce avant de prendre la nourriture, et Paul aussi, dans le bateau, devant tous, a rendu grâce en Actes 27, 35. Verset 7. En effet, aucun de vous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, c'est en ayant égard au Seigneur. Et si nous mourons, c'est en ayant égard au Seigneur. Donc, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. En effet, c'est pour ceci que Christ est mort et a repris vie. C'est afin d'être Seigneur, à la fois sur les morts et sur les vivants. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. Alors, si on relève les mots, hein, la vie, quatre fois, la mort, cinq fois chacun, pardon, la vie, cinq fois, la mort, cinq fois, de nouveau, unité, parallélisme, et donc, on entre ici dans un troisième registre, après la nourriture, après le calendrier, maintenant, c'est la vie et la mort. C'est toute notre vie. Les deux premiers exemples, c'était une portée quand même limitée, les aliments et calendrier. Maintenant, c'est toute notre vie qui est tournée vers le Seigneur. Et la mort n'est pas du tout présentée comme une perte, comme une punition, mais comme une continuité dans un chemin de communion avec le Seigneur. Une continuité dans un chemin de communion avec le Seigneur. Et la résurrection du Christ, c'est afin, en effet, c'est pour ceci que Christ est mort et a repris vie. Donc la résurrection du Christ est la garantie de la résurrection de ceux qui sont endormis. On retrouve donc aussi dans notre texte les deux populations qui forment l'Église, les vivants et les morts, qui sont réunis sous son autorité, sous l'autorité du Seigneur, à sa venue. Donc, ils seront réunis vraiment physiquement dans la nuée. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Les vivants ne précéderont pas les morts, mais ce sera l'inverse. On a deux populations dans l'Église. Et à sa venue, on a deux populations qui se retrouvent. Et il y a continuité entre ces deux états de vivant et de mort. Dans les deux cas, nous sommes au Seigneur. Et sa propre mort et sa résurrection est la garantie de cette continuité, que nous sommes sous son autorité, mort ou vivant. Certains d'entre nous seront pris vivants, d'autres seront pris morts. C'est la même famille, c'est la même église, c'est un tout. Et d'ailleurs, Oui, Monsieur Brousse dit, dans la vie comme dans la mort, nous sommes dans la main du Seigneur, dirigés par sa volonté et pour sa gloire. Et cette continuité entre les morts et les vivants, le Seigneur Jésus l'a enseigné quand il commente aux Sadducéens en Luc 20, verset 38, car pour lui, tous vivent. Il commente donc la notion de résurrection. Il commente le fait que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, car pour lui, tous vivent. Et c'est l'argument qu'il prend. Jamais personne d'entre nous serait allé chercher pour démontrer ou témoigner de la résurrection auprès de ces Sadducéens qui en doutaient. Tout simplement, pour Dieu, tous vivent. Et cette continuité, c'est extraordinaire, bien sûr. Quand on traverse le deuil, c'est extraordinaire de repenser à cela, car pour lui, tous vivent. Notre vie lui appartient. Et notre vie lui appartient, nous sommes au Seigneur, en effet, c'est pour ceci que Christ est mort et a repris. Donc, notre vie lui appartient également parce qu'il a accompli son œuvre pour nous. Donc c'est pour ceci que Christ est mort et a repris vie, afin d'être Seigneur. Donc nous sommes au Seigneur aussi, justement, grâce à son œuvre, parce qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. C'est pour ceci. Christ est mort et a repris vie, afin d'être Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Christ est Seigneur. On est toujours dans notre chapitre de la liberté. On est dans la partie conviction, après le début qui était ni jugé, ni méprisé. Ensuite, être convaincu, être persuadé. Et maintenant, le Christ est le Seigneur de nos vies. Et donc, on va terminer par ce dernier paragraphe pour ce soir, de 10 à 13. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou encore toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit en effet, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou se ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme étant Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Ni jugement, ni achoppement. Ni jugement, ni achoppement. Les deux groupes de tout à l'heure se retrouvent, ni jugement, ni mépris, ni jugement, ni achoppement. Alors, pourquoi juges-tu ton frère? Ne nous jugeons donc plus. Et le contrepoids, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne mets pas de pierre d'achoppement. Donc on est parfaitement parallèle ici de nouveau. En jaune, celui qui juge, eh bien, ne nous jugeons plus. En vert, celui qui méprise, ne mets pas de pierre d'achoppement. Et puis en bleu, on est tous responsables. Tous, tout genou, toute langue, chacun, lui-même. Le parallèle est complet et chacun est responsable devant son maître et devant Dieu ici. Donc on était responsable devant le maître, c'était au verset 4. Le maître le tiendra debout. Qui es-tu qui te permet de juger le serviteur d'autrui? Et ici on est responsable devant Dieu. Et chacun est responsable. Et d'ailleurs, celui dont on parle, celui que l'on méprise ou celui que l'on juge, Eh bien, c'est ton frère. C'est ton frère. Le fort, le faible, le serviteur du maître, c'est aussi ton frère. Et donc la dimension de l'amour, la dimension de la relation intervient pour nous aider dans cette vie communautaire de l'accueil de l'autre, de la réception de l'autre, où on ne juge pas, où on ne met pas d'achoppement, où on ne juge pas, où on ne méprise pas. C'est mon frère. On vit ensemble, on est dans la même famille. Le tribunal de Dieu, c'est un lieu où l'on va rendre compte. Alors, ce tribunal de Dieu nous fait penser aussi au tribunal du Christ, qui est mentionné dans 2 Corinthiens 5, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon les actions accomplies dans le corps, soit bien, soit mal. Ce tribunal s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Dans l'exercice de la liberté chrétienne, nous nous appliquons avec ardeur à être agréables au Seigneur, si on regarde 2 Corinthiens 5. Donc ce désir de lui être agréable, c'est la même pensée, c'est je veux lui faire plaisir et donc au tribunal, les choses seront mises en lumière, mais le but c'est de lui avoir fait plaisir, de lui être agréable. Et ça s'apparente un peu à un subordonné qui veut bien servir son supérieur hiérarchique, ou un écolier, ou un étudiant qui veut suivre les consignes du professeur. Mais cela s'apparente aussi à l'amour qui est nous motive pour être agréable au Seigneur, comme dans un couple, on est motivé pour être agréable à son conjoint ou à ses amis ou à ses frères et sœurs. Donc tout cet aspect de nous appliquer avec ardeur à être agréable, eh bien c'est cela, c'est je veux faire les choses pour faire plaisir à celui que j'aime. Et le tribunal de Dieu, rendre compte, n'a pas pour but de créer de la peur, de créer de l'inquiétude, mais a pour but de montrer qu'il y a un moment de lumière, un moment de vérité, un moment où les choses seront dites, soit bien, soit mal. D'ailleurs, dans le tribunal, il y a aussi tout l'aspect, on va dire, de félicitations ou de retour positif par rapport à tout ce qui aura été fait dans nos vies. Et c'est tous, et c'est chacun. Parce que celui qui juge ou celui qui méprise se positionne dans les deux cas au-dessus de ses frères. Si je juge, c'est que j'estime que l'autre fait faux. Si je méprise, c'est que j'estime que l'autre n'a rien compris. Dans les deux cas, je me place au-dessus de l'autre. Et quel est mon prétexte? C'est que mon frère ne voit pas les choses comme moi. Ça s'appelle de l'orgueil. Alors nous comparaîtrons tous, cela nous ramène un peu à nos propres affaires et nous évite d'avoir une mauvaise attitude envers les autres. Ce n'est pas l'autre qui ira au tribunal, c'est moi. Donc, ce rappel, nous comparaîtrons tous, nous évite cet orgueil, nous évite cette attitude de nous placer au-dessus de l'autre, soit pour mépriser, soit pour juger. On a dans Luc 12, 44 à 45, un bel exemple aussi de cela. L'attitude du serviteur, bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il est établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner au temps convenable leur ration de blé. Donc voilà, sa responsabilité, c'était de nourrir le peuple, nourrir les autres serviteurs. Pour nous, une application, nourrir le peuple de Dieu. Eh bien, en vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, à une heure qu'il ne sait pas, il le coupera en deux. Donc, on a cet état du cœur de quelqu'un qui est occupé des intérêts du maître, en attendant son retour, plutôt qu'occupé à battre les autres, et donc on pourrait risquer de les battre par la critique ou par le mépris, ou à s'autoriser toutes sortes de libertés, manger, boire, s'enivrer. Donc on a dans Luc 12 un bel exemple d'une vie consacrée au Seigneur. D'ailleurs, un peu plus tôt dans le paragraphe de Luc 12, Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. On est en train de veiller, et un peu plus loin, Bienheureux cet esclave que son maître, quand il viendra, trouvera faisant ainsi. Donc on veille et on est à son service. Pourquoi juges-tu? Pourquoi méprises-tu? De nouveau ce parallèle. Avoir jugé ou méprisé est plus grave que d'avoir mangé, bu ou respecté un jour. C'est aussi de cela dont il s'agit au tribunal, mon attitude vis-à-vis de mes frères. Donc c'est ça qui est important, c'est ça qui est le message important de notre chapitre, mon attitude vis-à-vis de mes frères. Pourquoi juges-tu? Pourquoi méprises-tu? Paul nous a donc donné quatre raisons pour recevoir nos frères. Dieu l'a reçu, Dieu le soutient, il ne tombera pas, Jésus est Seigneur et Jésus est juge. Quatre bonnes raisons pour recevoir mon frère. Dieu l'a reçu. Dieu le soutient. Jésus est Seigneur. Seigneur de ma vie. Seigneur de la sienne. Et Jésus est juge. Je reste humble. C'est devant lui que je rendrai compte. C'est devant lui que l'autre rendra des comptes. Et je n'ai pas à me positionner, moi, en juge. Parce que si je me positionne en juge, je prends la place du Seigneur. Si je donne des ordres ou des conseils, ou si je veux être directeur de conscience envers mon frère, je prends la place du Seigneur. Dans un cas, je prends la place du juge, dans l'autre cas, je prends la place du Seigneur. Et je peux avoir confiance, si le Seigneur soutient l'autre, il me soutient aussi, et Dieu nous a reçus tous les deux. Alors, ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, ni par le mépris, ni par la critique. Je pense que ça s'applique aux deux, même si on a un peu l'impression à ce moment-là qu'on est surtout dans l'idée de pas être celui qui juge, mais enfin, on peut penser que ça peut être par le mépris et ou par la critique que juge l'autre. Mais jugez plutôt ceci, là, il y a un jeu de mots de l'apôtre, pour nous ramener à éviter la pierre d'achoppement ou l'occasion de chute. Donc, le Seigneur reprend un enseignement du Seigneur dans le discours sur la montagne, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. De nouveau, une référence au discours sur la montagne dans ce chapitre, ce qui est important et intéressant. Et ces deux obstacles, la pierre d'achoppement, l'occasion de chute, donc les deux mots d'ailleurs qui sont réunis dans la citation de Romains 9 ou de 1 Pierre 2, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute. C'est le Seigneur, donc, dans ce cas-là, qui fait que les gens sont interpellés par sa personne qui vraiment pose question, en particulier aux Juifs. Et donc, ces deux mots, la pierre d'achoppement, c'est proskoma. Prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est un mal pour l'homme de manger en faisant trébucher, en faisant achopper l'autre. Donc un peu plus loin dans notre chapitre. Ça, c'est la pierre d'achoppement et l'occasion de chute, c'est le scandale, scandalone, le scandale. Donc ces deux choses-là, eh bien, c'est ce que on doit éviter pour que notre attitude, notre vie, ne fasse pas trébucher quelqu'un d'autre. Alors, c'est très important tout ce que nous faisons, notre service, mais mon attitude au quotidien et le bien de mes frères et sœurs, ça, c'est très important aussi. Et j'ai égard à mon frère pour éviter qu'il ne chute. Mais par contre, ce n'est pas que j'ai la crainte de sa critique ou de son jugement. Donc, c'est là toute la nuance d'éviter une chose qui va vraiment faire tomber mon frère. Alors dans ce cas-là, je vais renoncer pour moi-même pour éviter de faire tomber l'autre ou pour éviter de, oui, de lui apporter un risque dans sa propre vie. Mais en revanche, si mon frère me critique ou me juge, ça, c'est pas une raison, bien sûr, pour m'abstenir. Ce n'est pas la critique ou le jugement des autres qui doit m'aider à m'orienter. Mais si je vois que telle ou telle attitude, telle ou telle liberté que j'ai, est pour une autre personne dans la foi, un sujet tellement difficile que ça peut le faire trébucher, eh bien, je vais préférer plutôt me sacrifier moi-même, mon confort ou ma liberté pour le bien de l'autre. Donc, c'est toute une question d'amour, d'avoir égard à mon frère pour éviter qu'il ne chute. Voilà pour ce soir. On est dans les temps. Et juste la bibliographie, qui est la même que celle du mois de janvier pour ceux qui étaient là, sur l'Épître aux Romains. Donc, je vais arrêter le partage au cas où il y ait des questions.
Alors oui, on a quelques questions. La première, je vais te la poser en direct. Tu as mentionné dans la première partie, mais aussi là tout à l'heure, le fait que dans l'épître, Paul relate des événements des évangiles ou reprend
Oui.
des idées des évangiles, et pourtant l'épître aux Romains était écrite avant les évangiles.
Oui.
Est-ce que tu peux un peu clarifier le point?
Oui. C'est que il faut savoir que la plupart des épîtres de Paul ont été écrites effectivement dans les années 50, 60, 65, etc. Donc on est assez tôt dans l'histoire de l'Église, alors que les évangiles eux-mêmes ont été rédigés souvent plus tard. Alors l'évangile de Jean, probablement de façon très tardive, plutôt dans les années 90 ou 95, etc. Les synoptiques, dans leur version définitive, avec toute le questionnement des synoptiques, des trois évangiles qui se ressemblent, donc Matthieu, Marc et Luc, leur version actuelle en grec que nous connaissons n'était pas en circulation au moment où l'apôtre faisait des visites dans les églises et écrivait des épîtres. Ce qui fait que quand on a un petit texte d'une épître qui nous fait un rappel ou une citation des évangiles, ça c'est vraiment très intéressant, c'est que c'est de l'original. Un des textes les plus frappants, c'est celui de 1 Corinthiens 15, quand il est parlé quand vraiment l'apôtre écrit aux Corinthiens, donc dans les années pareilles, 50, et qu'il nous fait le résumé d'un petit texte, et ce petit texte est le texte fondamental sur la mort du Seigneur. Je vous ai communiqué tout ce que j'ai aussi reçu, donc il avait reçu ça. Qu'est-ce qu'il avait reçu? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu de Céphas, puis des 12, ensuite il a été vu de plus de 500 frères, etc. Ce petit texte-là, la façon dont il est rédigé, le vocabulaire utilisé, tout laisse à penser que c'est un petit texte issu du tout début de l'Église, peut-être datant des années 30. Et donc il l'a copié là où il l'a cité, parce qu'il était sûrement connu par cœur, ce texte. Il leur avait déjà dit lors de sa visite, il leur redit lors de son épître, mais on est ici dans des petits textes qui sont avant même les évangiles.
Super, merci. Une autre question. Avant la chute, Genèse 1:29 montre que Dieu avait prévu pour les humains un régime végétarien. Cela revient à la mode. Est-ce un signe de l'approche du royaume millénaire?
Alors, tout à fait d'accord avec le régime végétarien du début. Ce n'est pas lié spécialement à la chute. Il semblerait que le régime végétarien soit resté jusqu'au déluge. Et le déluge a lieu, est une énorme rupture de continuité dans toute la création, avec des immenses conséquences. Une des plus grandes, c'est bien sûr le fait que la pluie va maintenant exister en tant que pluie, démontrée par l'arc-en-ciel. Et une autre énorme modification absolument invraisemblable après le déluge, c'est les âges des patriarches qui vont s'effondrer complètement sur une courbe. Si on trace la courbe, on comprend bien que c'est le déluge qui a tout fait basculer. Et on a donc une troisième très grande différence, c'est qu'après le déluge est autorisé le fait de manger de la viande. Donc le régime, on va dire, de manger de la viande et du poisson est parfaitement autorisé. Et même encouragé par le Créateur, juste à la sortie du déluge, quand on redémarre l'histoire du monde, et pratiqué par le Seigneur, bien sûr, qui mangeait du poisson, le Seigneur lui-même, qui a même offert du poisson à ses disciples quand même après la résurrection. Donc là, et on sait que ce sont des doctrines mauvaises, des temps de la fin, d'après l'épître à Timothée, de gens qui vont interdire de manger des choses que l'on prend avec action de grâce. Et l'apôtre Pierre, qui lui avait des scrupules plutôt en tant que juif, eh bien le Seigneur lui a dit, mais tue et mange, dans sa vision de Acte 10, pour lui dire, mais non, si Dieu a la sanctifié, tu vas pas le tenir pour impur. Donc pour Pierre, c'était plutôt la leçon pour passer de son judaïsme à l'ouverture, à l'accueil des gens des nations, mais ça s'applique parfaitement au fait de manger de la viande, de manger du poisson et de ne pas être du tout. Donc le fait d'être végétarien, c'est sûrement pas interdit. Voilà un sujet de notre sujet de ce soir. On va sûrement pas mépriser ni juger quelqu'un qui serait végétarien, sûrement pas. Mais il faut savoir que il faut faire un peu attention quand le fait d'être végétarien vient de ces doctrines mauvaises des temps de la fin. Parfois aussi avec la notion que la terre n'aurait pas assez de place pour nourrir tout le monde. Toutes ces notions-là, on pense bien, le Créateur, il a tout bien prévu. Donc, il n'y a aucun problème pour prendre la nourriture qu'il nous donne.
Merci beaucoup. Encore une autre question. Certains chrétiens ne retiennent que les versets disant de ne pas se juger. Pourtant, des versets encouragent à se reprendre l'un l'autre. Pourrais-tu aider à savoir quand l'on doit juger une personne ou quand on doit éviter de le faire? Romains 14 parle de ne pas juger au sujet du manger et du boire, mais Paul juge les Corinthiens pour leur manière de manger et de boire, par exemple dans 1 Corinthiens 11.
Voilà, donc il faut donc en général juger, c'est jamais tellement bienvenu, mais par exemple, il y a dans l'Église la notion de la discipline. Donc la discipline dans l'Église pourrait quand même paraître un peu du jugement, puisque une décision d'Église va décider que telle personne qui pratique l'adultère, par exemple, ne peut plus faire partie de l'Église, ne peut plus être en communion, ne peut plus participer au pain et au vin, par exemple, ne peut plus avoir des relations normales avec les gens de l'Église. Donc c'est bien une forme de jugement, de discipline, parce qu'on est dans le cadre d'un péché caractérisé. Et pareil dans ma relation individuelle, donc avec mon frère, si je comprends par des conversations que mon frère est tombé dans l'adultère, eh bien, j'ai une responsabilité personnelle de lui en parler parce que je ne peux pas le laisser là. Donc, si quelqu'un, c'est la fin d'une des épîtres, si quelqu'un ramène son frère du péché, eh bien, il a sauvé quelqu'un parce qu'il est intervenu pour son bien. Donc, quand on sent qu'un de mes frères s'écarte, pêche, de façon caractérisée et qu'il est aveugle, qu'il s'en rend même pas compte, j'ai une responsabilité de lui en parler, qui n'est pas du jugement, c'est de l'amour, je lui parle de ce sujet. Notre chapitre sont tous les sujets qui sont justement pas des péchés caractérisés.
D'accord. Deux autres questions qui se ressemblent un peu. Je vais te les lire les deux en même temps. Ces passages ont parfois été utilisés dans les milieux de frères pour assurer l'immobilisme. Si un frère est choqué par l'utilisation d'instruments dans l'église, alors pour ne pas le choquer, pas d'instruments. Comment éviter ce genre de travers? Et puis la deuxième, un exemple, une sœur se couvre la tête dans l'assemblée pour ne pas choquer d'autres sœurs. A-t-elle raison ou tort?
D'accord, alors c'est pas tout à fait la même chose. Le premier exemple, c'est j'aurais à cœur une certaine liberté, typiquement là l'instrument, et je me pose la question, est-ce que quelqu'un est choqué? Donc, on rappelle ce qu'on a lu ce soir, il s'agit pas d'être choqué ou pas choqué. Il s'agit éventuellement de trébucher, de tomber, de fauter. Donc, il faudrait beaucoup plus, un exemple beaucoup plus proche de la réalité, c'est effectivement un jeune converti était alcoolique, a été délivré. Eh bien, si je l'invite à table un dimanche pour un repas, eh bien peut-être que par égard pour lui, on va tous s'abstenir. Pas du tout que je lui cache le fait que moi je prends du vin parfois quand il y a des invités. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre une bouteille de vin sur la table et que ce soit le seul qui va pas en prendre parce qu'il fait très attention, c'est pas sympa pour lui. Et on sait que si par contre il accepte, et on sait que ça peut redévelopper des mécanismes, donc on va vraiment éviter de le faire tomber. Et donc je vais renoncer à une liberté par amour. Mais c'est pas du tout pour ne pas choquer. Donc ensuite, comment dans une assemblée on fait en sorte de se respecter les uns les autres, d'aller à sa vitesse, etc., par rapport donc la notion d'immobilisme, c'est un autre sujet, bien sûr, mais jamais les actions que je fais ou non sont déterminées par je risque de choquer. C'est pas la notion de choquer. C'est est-ce que mon frère risque de tomber, lui dans le péché, lui dans le péché ou dans quelque chose qui pour lui est péché. Ce sera le sujet dans 15 jours parce qu'il a absolument pas de liberté par rapport à ça. Bon, et puis l'autre sujet, c'est est-ce que je fais parfois quelque chose pour, même si je suis pas convaincu moi-même, donc dans le cas de la couverture, je suis pas convaincu, mais je le fais par égard aux autres. Voilà. Donc là, de nouveau, c'est pas la notion de choquer. C'est je le fais par égard aux autres, même si je suis pas convaincu. On le fait, tant de fois. Il y a des gens qui se lèvent pour chanter et d'autres qui se lèvent pour prier. Eh ben, je peux être convaincu, pas convaincu, mais par égard aux autres, dans cette assemblée-là, je vais me lever avec ceux qui se lèvent, je vais m'asseoir avec ceux qui s'asseyent. Donc, ça n'est pas obligé d'être des sujets comme la couverture des sœurs. Il y a tant de sujets où, par égard aux autres, pour éviter d'affirmer par mon attitude corporelle mes opinions, je vais par égard aux autres, par politesse. Par humilité, je suis un invité dans cette église, eh bien, je vais non pas suivre le mouvement, mais je vais faire des choses par égard aux autres. Voilà. Après, voilà, il y a des fois où ça dépasse ma liberté. Alors, voilà, si je vais à une messe catholique pour un enterrement, par exemple, ou un mariage, et que toute l'assemblée va chanter à Marie, bah, peut-être que ce chant-là, je vais éventuellement pas le prononcer, alors que les autres chants, je vais chanter à tue-tête parce que je serai heureux de soutenir le chant. Voilà.
Merci beaucoup. Et puis une dernière, Paul n'a-t-il pas un autre regard sur les faibles en Colossiens 2, versets 20 à 23?
Qu'est-ce qu'il est dit en Colossiens 2, verset 20 à 23?
Alors, j'ai pas la référence sous les yeux.
Si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances? Oui, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Donc, ce n'est pas tout à fait le même sujet, puisque Colossiens 2, 20, c'est vraiment le légalisme. C'est ne prends pas, ne touche pas, c'est je rajoute des commandements justement à la parole, Et en fait, c'est plus pour satisfaire la chair. C'est-à-dire, c'est plus pour me faire du bien, pour me sécuriser, etc. Et ensuite, pour éventuellement mettre la pression à d'autres. Donc, ce n'est pas notre sujet, mais c'est un petit peu le risque aussi. Si on est trop dans le jugement des autres et dans le fait de mettre des règles, eh bien, on tombe alors dans Colossiens 2, verset 20. Et on voit que dans Colossiens 2, verset 20, l'apôtre est très sévère contre cette attitude, alors que dans notre chapitre, il n'est sévère envers personne. Il demande à chacun de s'accueillir les uns les autres. Donc on voit la nuance dans la dimension des sujets.
Alors merci beaucoup, je vais laisser la parole à Marco pour la conclusion.
Ouais, ben écoute, merci beaucoup Fred. Moi je retiens dans ce passage qu'on a pas mal fait des parallèles avec ce qu'on trouvait dans 1 Corinthiens. On a l'impression que ça qu'on fait des parallèles très facilement. Et pour
Oui.
faire encore un parallèle, je trouve que ça serait intéressant juste de lire 1 Corinthiens 16, 14, oui, 16, verset 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et c'est l'attitude que l'on doit avoir et que l'on doit retenir. Bien sûr, ça sera beaucoup plus à développer dans tout ça. En tout cas, merci. On se dit à dans 15 jours pour la suite avec Fred encore. Et je vais juste prier pour remercier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions car tu vois, tu nous as encore permis de pouvoir ouvrir ta parole ce soir. Tu vois, en toute paix, tu vois, de pouvoir étudier ces passages qui sont des fois interprétés d'une manière ou d'une autre. Nous te demandons de permettre que nous puissions avancer les uns avec les autres dans ce chemin qui nous mène à toi. Et nous te demandons de permettre que nous sachions vraiment vivre notre foi en adéquation avec ce que ta parole nous dit et de permettre que nous puissions être des témoins là où tu nous as placés, que nous puissions témoigner de ton amour que tu as eu pour la terre entière et de permettre que, là encore, chacun puisse avancer avec son frère ou avec sa sœur qui est différent. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu nous as donné encore ce soir. Nous te demandons d'accompagner encore chacun et de bénir chacun dans la situation où il est. Et nous faisons tout cela dans ton beau et précieux nom. Amen.
Amen.
Bonne soirée à chacun et à dans
Bonsoir à
15 jours
tous.
pour la suite. Au revoir.
Merci.